Mon grand-père avait sa propre vigne. Quand nous avons débarrassé sa cave, nous avons emmené des bouteilles qui avaient déjà pas mal d'années derrière elle. Un jour, j'ai voulu le goûter, ce vin du grand-père. Eh bien, j'ai eu une mauvaise surprise. Le vin vieux est généralement meilleur quand il a pris de l'âge, mais ça dépend du cépage et il faut qu'au départ, ce soit du bon vin. C'est un peu pareil pour les croyants. Avec le temps, ils devraient s'améliorer. C'était le cas des Thessaloniciens. Ils constituaient une église modèle qui poursuivait sa marche vers la sainteté. À plusieurs reprises dans cet épître, l'apôtre Paul les a félicités pour leur attitude. Par exemple, il a dit « Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. » Il y avait bien des lacunes dans cette église, mais elle ne menaçait pas la vie spirituelle de ses membres. Paul ne mentionne aucune fausse doctrine ou faute morale grave. Cependant, il les a quand même encouragés à continuer leur progression dans la foi. Dans cette perspective, l'apôtre leur adresse une longue série de recommandations, la plupart brèves mais fermes. Précédemment, il leur a demandé de revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Maintenant, il va donner ses ordres à ses soldats, mais au lieu d'aboyer comme un adjudant, il va leur parler comme un père à ses enfants. Il est intéressant de noter que les fameux 10 commandements de Moïse ne figurent pas dans cette liste, parce que les Thessaloniciens, comme tous les croyants, sont appelés à vivre à un niveau moral et spirituel plus élevé que les Israélites ne l'étaient. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ, Dieu ne lui demande rien. Sinon, de répondre à la question « Que vas-tu faire à l'égard de mon fils qui est mort pour toi sur la croix ?» Par contre, une fois que quelqu'un devient croyant, Dieu s'intéresse de près à sa vie. Il est certes merveilleux d'espérer la venue du Christ qui viendra chercher son Église, mais en attendant, il est important de marcher ici-bas d'une manière digne de Dieu, que ce soit dans son foyer, au bureau, à l'école et partout ailleurs. Jésus a dit à ses disciples « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements ». Je continue à lire dans le chapitre 5 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. « Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. » Verset 12. Paul s'adresse ici à une assemblée qu'il a lui-même fondée et qui a moins d'un an. Elle marche bien, c'est vrai, mais tous ses membres se sont convertis à peu près en même temps, ce qui fait que personne n'a l'expérience de la vie chrétienne. De plus, la plupart sont des gens simples, des esclaves qui savent seulement obéir. Il fallait donc que les futurs dirigeants de l'Assemblée améliorent leur connaissance des Écritures et apprennent à devenir des meneurs d'hommes. Bien que Paul, leur père spirituel, soit absent, Dieu était présent parmi eux. Jésus a dit à ses disciples, « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. » Selon le Nouveau Testament, le Saint-Esprit donne à tous les croyants des dons spirituels qu'ils doivent mettre au service de l'Église. Ainsi, certains peuvent enseigner, d'autres prêcher ou aider, réconforter, etc. Durant son séjour à Thessalonique, Paul avait certainement dû discerner qui pouvait faire quoi et commencer à enseigner les futurs responsables de l'Assemblée. Dans le Nouveau Testament, on trouve 4 termes dont les sens sont proches, qui reviennent plusieurs fois et définissent les rôles des dirigeants d'une Assemblée. Il y a d'abord le mot qui a donné « presbytère » en français, qui veut dire « ancien » dans le sens de « sage », « spirituellement mûr ». Ensuite, le mot qui a donné « épiscopat » et qui veut dire « surveillant », qui a de l'autorité. Le troisième mot est « pasteur ». Il est responsable d'enseigner la parole de Dieu et de veiller sur le troupeau. Ensuite, le mot qui a donné « hégémonie » en français et qui veut dire « chef ». Son rôle spirituel est de discerner le vrai du faux et guider le troupeau dans le droit chemin. Mais ici, Paul n'utilise aucun de ces 4 termes de base, mais d'autres qui leur sont similaires. Les bergers savent combien il est difficile de s'occuper de leurs moutons. Ces animaux sont sales, faibles, désorganisés et s'écartent facilement du troupeau. Et il faut en plus se méfier de leurs sabots incisifs. Quand ces bêtes refusent d'être dociles, s'occuper d'elles devient une tâche ingrate. Pareillement, quand les croyants n'obéissent pas aux enseignements des Écritures et ne se soumettent pas à leurs dirigeants, ils rendent la vie d'Église pénible et stérile. C'est pourquoi il est important pour les fidèles de soutenir leurs pasteurs. La première admonition de l'apôtre aux Thessaloniciens est d'apprécier, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi eux. Littéralement, l'apôtre leur demande d'apprendre à connaître ceux qui travaillent parmi eux. En effet, plus les brebis ont des relations étroites et amicales avec leurs bergers, et plus elles l'apprécieront, plus elles auront de l'affection pour lui et lui obéiront. Mieux on connaît quelqu'un et les difficultés qu'il rencontre, et moins on sera critique à son égard. Les Indiens d'Amérique avaient un proverbe qui en gros disait « Ne critique pas ton frère avant d'avoir fait au moins 3 kilomètres dans ses mocassins ». L'exhortation aux Thessaloniciens d'apprécier leurs dirigeants suggère qu'il y avait quelques tensions dans l'assemblée. Il semble en effet que certains avaient une attitude d'envie envers ceux qui commençaient à assumer une responsabilité envers leurs frères. Ces tiraillements, sans menacer la cohésion de l'Église, étaient suffisamment sérieux pour que Paul demande à tous les membres de se soumettre à ceux qui exerçaient un ministère pastoral ou d'enseignement parmi eux. Mais alors qu'envers d'autres églises, Paul est parfois brusque, menaçant et pèse de tout son poids d'apôtre, ici, il est doux et dit gentiment « Nous vous demandons ». Il est comme un père qui dirait à ses enfants qui se disputent « Allons, soyez raisonnables ». Comme ces braves Thessaloniciens marchaient bien, Paul les encourage seulement à faire encore mieux. « Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. » Le mot pour avertir signifie « instruire » dans le sens de corriger. Celui pour travailler signifie fournir un gros effort jusqu'à l'épuisement. Le mot pour diriger signifie être devant. C'est celui qui préside, qui veille, qui prend soin et résout les problèmes. Il est partout sur la brèche. Ces dirigeants en herbe étaient fidèles dans leurs tâches et se donnaient beaucoup de mal pour les autres. Ils ne s'étaient pas imposés comme chefs, mais exerçaient leur ministère au nom du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils avaient été choisis par lui et le représentaient devant l'assemblée. Je continue le texte. « Témoignez à vos dirigeants une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Verset 13. Le devoir des croyants est de respecter leur pasteur au-delà de toute mesure. J'ai travaillé avec un collègue dans une église de la région lyonnaise. Quand lui ou moi prêchions, une personne de l'assemblée nous disait ensuite qu'elle avait vu une auréole sur notre tête. Peu importe ce phénomène. Par contre, il est certain que cette brave dame éprouvait le plus grand respect pour les prédicateurs. Le mot pour affection est en réalité amour. Même si les croyants donnaient souvent à l'apôtre du fil à retordre, ils l'aimaient énormément. Paul écrit aux Galates « Vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. » Le commandement suivant de l'apôtre est de vivre en paix. Cette exhortation est courante dans le Nouveau Testament, mais ici elle s'applique spécifiquement aux membres de l'Église qui devaient se soumettre à leurs dirigeants, ce qui éliminerait toute discorde. Tout le monde ne peut pas être chef en même temps. Les tribus iroquoises devinrent puissantes parce que les Indiens obéissaient à leur chef. 20 ans après cet épître, un autre auteur sacré écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » Je continue le texte. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Verset 14. Pour qu'une église grandisse dans la foi et remplisse son mandat d'évangéliser sa région, il est nécessaire de régler les problèmes. En d'autres mots, les croyants mûrs doivent aider leurs frères qui battent de l'aile et dont la vie est déréglée. Ce terme militaire signifie « sorti des rangs, insubordonné, soit rebelle, soit tir au flanc ». Le mot pour décourager veut dire « petite âme ». Ce sont les brebis apeurées et angoissées. Elles ont besoin de quelqu'un qui vienne les entourer et leur dise « Je prie pour toi, ça va aller ». Les faibles ont une petite foi et succombent facilement aux tentations. Ils ont besoin d'être soutenus par les forts qui doivent se montrer patients et compréhensifs à leur égard. Les dirigeants en particulier ont pour tâche d'œuvrer pour le bien-être du troupeau et pardonner à ceux qui les critiquent sans éprouver de ressentiment. C'est ça, oublier les offenses. Je continue le texte. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Verset 15. Les brebis peuvent vraiment se faire du mal, surtout avec la langue qui répand des commérages et des médisances. Malgré tout, il n'existe aucune situation où un croyant blessé a le droit d'user de représailles et de se venger. Au contraire, il doit en toutes circonstances pardonner et rechercher le bien de tous les hommes. En gros, il existe trois philosophies de vie, trois façons de se comporter. La première est l'attitude sauvage qui consiste à suivre la loi de la jungle, façon Attila le 1. Dans notre culture, on l'a raffiné, mais c'est toujours le même principe. La loi du plus fort est toujours la meilleure et la fin justifie les moyens. Les milieux des affaires et de la politique fonctionnent selon ce modèle. Ensuite, il y a la méthode païenne civilisée où on rend le bien pour le bien. Jésus n'appréciait pas cette façon d'agir, je le cite. « Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? » Le croyant doit vivre autrement. Il est appelé à faire du bien à ceux qui lui font du mal. Je cite encore Jésus. « Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. » Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Je continue le texte. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Versets 16 à 18. Ces trois exhortations vont ensemble. Pour que le troupeau de Dieu demeure en bonne santé, il faut, par-dessus tout, que les brebis établissent une bonne relation avec le grand berger, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. A priori, être toujours dans la joie semble absurde et impossible au vu des difficultés inhérentes à la vie. Cependant, se réjouir ne signifie pas nécessairement respirer le bonheur. L'apôtre Paul ne vivait pas dans une bulle, il savait ce qu'était la tristesse et la détresse, mais il voulait que les croyants s'élèvent au-dessus de leurs conditions terrestres. La vraie joie est un fruit du Saint-Esprit qui ne provient pas des circonstances de la vie, mais de la confiance du croyant dans l'amour de Dieu pour lui et dans sa puissance. Dans sa souveraineté, le Seigneur arrange toutes choses pour qu'elles soient conformes à sa volonté parfaite. Ailleurs, Paul écrit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Après « Soyez dans la joie », Paul dit « prier sans cesse. Ce n'est pas une activité perpétuelle, mais un style de vie qui consiste à s'adresser à Dieu pour tout. Par exemple, on prie pour le remercier et lui rendre gloire, pour confesser ses fautes, pour ses besoins, pour savoir quelles décisions prendre, pour être délivré de l'épreuve, de l'angoisse ou pour le salut des hommes. Troisièmement, le croyant est appelé à remercier Dieu en toutes circonstances. Par nature, le cœur humain est ingrat. C'est ainsi que Paul définit les non-croyants quand il dit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Les hommes n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. La bonne attitude du croyant est de toujours être prêt à remercier le Seigneur en toutes choses. Je continue le texte. N'éteignez pas l'esprit, verset 19. Parfois, le Saint-Esprit est représenté sous la forme d'un feu qu'il est possible d'éteindre en refusant d'obéir aux commandements de Dieu et en décidant d'en faire à sa tête. Ailleurs, Paul exprime la même pensée quand il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Le Saint-Esprit n'est pas une force, une émanation, mais la troisième personne de la Trinité, et il est affligé par le péché. Je continue le texte. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 20. Quand Paul écrit ces lignes, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. C'est pendant l'ère apostolique que Dieu a fait connaître sa parole aux écrivains sacrés. Paul parlait avec l'autorité divine et les églises qui recevaient ses lettres devaient en tenir compte car c'était la parole de Dieu. Le dernier livre inspiré du Nouveau Testament est l'Apocalypse. Son auteur, l'apôtre Jean, le considérait comme une prophétie. Et l'apôtre Pierre appelle prophétie toute la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Aujourd'hui, la proclamation de la révélation des Écritures se fait par le biais de l'enseignement et de la prédication. Je continue le texte. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Versets 21 et 22. Depuis les années 60, la société occidentale a viré de bord, pour ne pas dire chaviré. Elle s'est détournée de la raison pour embrasser l'expérience. Les émotions et les sensations ont remplacé la connaissance et le jugement logique. Le croyant ne doit pas se laisser entraîner par ce courant humaniste, mais au contraire, exercer son discernement spirituel afin de distinguer entre ce qui est conforme à la pensée de Dieu et l'erreur ou les demi-vérités. Le mot « examiner » veut dire « tester l'authenticité de quelque chose ». C'est différencier le mal du bien et ce qui est faux du vrai et du juste. Paul désire que les Thessaloniciens s'attachent à ce que la parole de Dieu déclare et rejettent totalement ce qui est faux ou mal. Je continue le texte. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ est une référence à l'enlèvement de l'Église. L'apôtre termine cette lettre par une bénédiction. Le Dieu de paix est appelé ainsi parce qu'il a fait la paix avec l'homme par le sang du Christ versé sur la croix. En lui, nous pouvons avoir l'âme en paix. Le mot « saint » signifie « séparé du péché et mis à part pour Dieu ». Dans les Écritures, l'âme et l'esprit sont des termes synonymes qui désignent la partie immatérielle de l'être humain. Paul inclut le corps dans sa bénédiction parce que le croyant doit s'en servir comme d'un outil, un instrument au service de Dieu. Le mot grec pour irréprochable a été trouvé écrit sur des tombes à Thessalonique. C'est de cette manière que l'Église identifiait les croyants en Jésus-Christ. Je continue le texte. « Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. » Verset 24. C'est Dieu qui fait tout de A à Z, depuis l'appel au salut jusqu'à la glorification du corps ressuscité. Je finis la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. « Frères, priez aussi pour nous. » Saluez tous les frères en leur donnant le baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Versets 25 à 28. Les dernières requêtes de l'apôtre sont très pratiques et spirituelles en même temps. Il demandait souvent aux églises de le soutenir dans la prière, car les croyants sont tenus de prier les uns pour les autres et pour leur pasteur. Le baiser fraternel apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament en conclusion d'une épître. À cette époque, on s'embrassait sur la joue comme chez nous. C'est aux responsables de l'assemblée que Paul demande solennellement au nom du Seigneur que sa lettre, qui est une révélation de Dieu, soit lue à tous les membres de l'Église. Enfin, comme pour toutes ces épîtres, Paul termine en mentionnant la grâce de Jésus-Christ parce qu'elle est au cœur de toute la théologie du christianisme. Tout ce que Dieu fait en faveur de l'homme est uniquement par grâce et en Jésus-Christ. Ni vous, ni moi ne méritons quoi que ce soit. Tout est par grâce, rien que par grâce.